Nous allons continuer cette recherche de l'éthique religieuse. La dernière fois, nous avions essayé de comprendre le problème de l'obéissance qui apparaît avec l'éthique religieuse. Et je vous avais dit que nous pouvions considérer qu'à partir d'une éthique religieuse, il peut y avoir comme une loi divine et naturelle qui nous est donné et qui fait que l'éducation prend comme une modalité différente. Ça se traduira de fait dans toute la philosophie de la famille, mais on peut le considérer au niveau proprement de la personne humaine qui, dans la mesure même où elle découvre que Dieu est créateur et père, on est comme perpétuellement, comme un enfant à l'égard de Dieu, qui réclame une éducation qui se fait tout le temps. Et c'est peut-être cela qui donne ce caractère particulier que la païdéia n'est pas seulement au niveau de la famille, mais dès qu'il y a adoration et reconnaissance d'un Dieu Père, on peut dire qu'on peut regarder ce problème d'une éducation qui se fait toujours plus profondément. Ce sera beaucoup plus vrai encore au point de vue éthique chrétienne avec l'Esprit Saint, mais c'est déjà vrai au niveau religieux. Et c'est par là, je crois, qu'on pourrait considérer, si vous voulez, comment ce qui a été donné à Moïse, le point de vue de la loi. Le point de vue de la loi, c'est un don de Dieu comme Père pour nous faire comprendre que cette éducation, quand elle regarde Dieu comme Père, elle se fait tout le temps. Nous sommes toujours des êtres qui ont besoin d'être éduqués. Au point de vue purement humain, l'éducation est terminée à un certain moment. À partir maintenant, encore plus vite qu'avant. Avant, c'était 18 ans, maintenant c'est 14 ans. Ça va beaucoup plus vite. À partir de 14 ans, on est des êtres éduqués, on n'a plus besoin d'être dans la famille. Et on est plutôt en cette contre. Je vous dis ce qu'en Israël on m'a dit, c'est moi que c'est 14 ans. À partir de 14 ans, il faut que les enfants n'appartiennent plus à la famille, mais appartiennent à l'État. Alors, c'est à dire qu'au fond, on est éduqué à 14 ans. Les psychologues le diront, du reste. Hein. Les plis essentiels sont donnés. Alors, au plan religieux, on peut considérer que cette éducation, au contraire, continue. Et c'est peut-être même à partir de ce moment-là qu'on a beaucoup plus le sens d'être éduqué par un Père, qui est Dieu. Voyez, vous trouvez ça dans tout le stoïcisme le plus évolué ou le plus parfait d'Épictète, qui nous donne bien certains éléments d'une éthique religieuse. Parce que le stoïcisme donne très fort le sens de la providence, sans aucune révélation, uniquement par le point de vue que Dieu est Père. Ce que diront les néoplatoniciens. Les néoplatoniciens diront qu'il y aura le double niveau sur lequel on pourra regarder Dieu. On le regardera comme Créateur, on le regardera comme Père. Si on le regarde comme Père, on le regarde comme Providence. Et Providence par rapport à l'homme. Et c'est pour ça qu'ils regardent Zeus comme le Dieu des dieux, celui qui est le Père par excellence. Et celui qui éduque par le cœur de l'homme, par le point de vue de la conscience. Alors là aussi, il y aurait à regarder le point de vue de la conscience religieuse qui donne cet approfondissement au point de vue moral qui fait qu'on sait que si c'est Dieu comme Père qui nous gouverne, qui est Providence, d'une certaine manière, il n'y a plus de limite à cette éducation. Pour les parents, il y a une limite. On est au niveau de la justice, au niveau de l'amour d'amitié. Et l'amour d'amitié est au-delà de toute éducation et d'une certaine manière ils font de la morale, donc ce n'est pas de l'ordre de l'éducation. Tandis que lorsqu'il s'agit de l'éthique religieuse, on peut dire que dans la mesure même où on prend conscience de ce que représente Dieu comme Père et comme Providence, on peut, même s'il n'y a pas de loi explicite, on pourrait, je vous le disais la dernière fois, on pourrait prendre la loi de Moïse. La loi de Moïse peut être intégrée entièrement dans une éthique religieuse. Il n'y a rien qui relève strictement de la foi, au sens strict. C'est l'éthique religieuse. Et donc, si on est une éthique religieuse et qu'on voit que, selon des traditions religieuses, Dieu a donné une loi, on doit l'intégrer, on doit l'apprendre. Et on doit réfléchir sur cette loi au plan philosophie religieuse, pour essayer de comprendre comment Dieu nous éduque lui-même et qu'il veut nous éduquer lui-même en réclamant de nous cette docilité de plus en plus profonde. Alors ça donne vraiment à toute l'éthique une nouvelle profondeur par l'obéissance. La vertu de religion, qui est avant tout le point de vue de l'adoration, va avoir comme une extension, et c'est pour ça que saint Thomas dit que la vertu de religion peut avoir ce caractère absolument universel. Et je crois que c'est dans l'éthique religieuse. Alors elle enveloppe en quelque sorte toute notre vie, parce que toute notre vie peut être comme une réponse à la conduite de Dieu sur nous. Et c'est vrai déjà au plan philosophique. Je vous dis, on verrait quelqu'un comme Épictète, qui est quelqu'un très religieux, ça on ne peut pas le nier, il est stoïcien, mais il est très religieux dans son stoïcisme, et on voit bien chez Épictète que ce qu'il y a de plus profond pour lui comme attitude religieuse, c'est cette docilité à la volonté de Dieu. C'est de se soumettre à la volonté de Dieu. Or, se soumettre à la volonté de Dieu, ça regarde toutes nos activités. Il y aurait déjà, vous voyez, dans l'attitude dans l'attitude d'une éthique religieuse, il y aurait déjà le problème de l'abandon qui pourrait être posé. Si Dieu est Père, si nous l'adorons et que nous savons qu'il nous aime et qu'il nous a créés par amour, nous devons avoir vis-à-vis de lui cette confiance absolue. Et cette confiance absolue va se traduire de fait dans une attitude d'abandon. Se remettre entre les mains de Dieu pour toutes nos activités, se remettre entre les mains du Père, c'est ce qu'il y a de plus grand. Est-ce que ce n'est pas au cœur du stoïcisme? Et c'est en ce sens-là que l'éthique stoïcienne a été si vite assumée par les pères de l'Église, si vite assumée par le christianisme. C'est pas l'aristotélisme, c'est l'éthique stoïcienne, parce que l'éthique stoïcienne était une éthique de la providence. Et c'est une éthique de l'abandon, de la remise entre les mains de Dieu. Je crois que c'est très important de saisir le point sur lequel l'éthique stoïcienne a pénétré dans le christianisme. Par ce point de vue-là, ce n'est pas premièrement le point de vue volontariste, je ne crois pas. Après, ça a été le point de vue volontariste, ça on ne peut pas nier. Mais en premier lieu, je crois que c'est beaucoup plus cette attitude d'abandon, cette attitude de la liberté intérieure, où on rejoint certains aspects de saint Paul. La liberté intérieure n'est pas, elle peut être chrétienne, mais elle peut être uniquement religieuse. On peut parler d'une liberté intérieure dans cette confiance absolue vis-à-vis de celui qui nous conduit, qui est notre Père. Notre Créateur est notre Père. Et nous nous remettons entre ses mains. Et voyez, c'est peut-être dans cette lumière-là qu'on devrait comprendre alors la grande distinction qui commande toute l'éthique stoïcienne: ce qui est en notre pouvoir et ce qui n'est pas en notre pouvoir. Parce que si je me place dans cette lumière de l'abandon, me mettre dans l'abandon divin, entre les mains de Dieu, puisque c'est Dieu, Père, qui nous gouverne, qui est Providence, quoi qu'on fasse, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est de se remettre dans la confiance de Dieu, à travers tous ces événements. Alors, ça donne à toutes nos activités une profondeur religieuse. On les fait dans une attitude d'abandon. Ce n'est plus tellement ce que nous faisons qui compte, mais c'est beaucoup plus la manière dont nous le faisons. Mais saint Thomas a ceci de très particulier quand il étudie ce que c'est que l'obéissance. Et saint Thomas met le parallélisme entre l'obéissance de l'enfant et l'obéissance du serviteur. Il dit que l'obéissance du serviteur, c'est d'exécuter ce qu'on lui commande. Un serviteur, on lui demande ça. On lui demande de faire la cuisine, on lui demande que ce soit autant que possible mangeable et bon. C'est ce qu'on lui demande. On lui demande de faire tel ou tel travail, de réparer les voitures, on demande donc que la réparation soit faite. La méthode, ayez la vôtre. Le tout, c'est que ce soit efficace. Voilà ce qu'on demande à un serviteur. Et saint Thomas souligne, à un enfant, on ne lui demande pas en premier lieu la réalisation de telle œuvre, mais la manière de le faire. Je crois que ça, c'est très juste. C'est toute la différence, si vous voulez, entre l'aspect du serviteur et de l'enfant. Or, je crois bien qu'on puisse dire que dans une éthique religieuse, qui pour nous a existé dans le stoïcisme, qui pour nous a existé dans l'ancienne alliance, cette éthique religieuse est avant tout une éthique qui doit faire de nous des enfants de Dieu, ayant une totale confiance à l'égard de Dieu. Et donc, qui fait que toutes nos activités, ce n'est plus en premier lieu ce que nous faisons qui compte, mais la manière dont nous le faisons. Alors ça change toute l'éthique. Ça modifie toute l'éthique. Et je crois que ça, c'est l'attitude religieuse. Parce que vous allez me dire, oh, c'est des gens chrétiens. Est-ce que ce n'est pas uniquement religieux ? Et c'est important, au point de vue philosophique, d'attribuer à l'attitude religieuse tout ce que nous pouvons attribuer. Je vous dis, dans l'éthique stoïcienne, ça me semble très net, parce que cette division, ça m'a toujours beaucoup tracassé, ce point de vue stoïcien. Le premier commandement du stoïcien, si on veut entrer dans une éthique stoïcienne pour savoir si c'est une éthique stoïcienne ou pas une éthique stoïcienne, c'était le problème que se posait hier. Ceux qui passent leur licence à Saint-Jodard et qui sont en train de travailler Leibniz. Ils se demandaient si l'éthique de Leibniz était une éthique stoïcienne. C'est une très belle question du reste. Alors j'aurais posé la question, est-ce que dans l'éthique de Leibniz, est-ce que la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous est-elle la première division ? Si on trouve cette division comme la première division, on peut dire qu'on est en face d'une éthique stoïcienne. Si ce n'est pas la première division, ce n'est plus stoïcien. Et pourquoi c'est la première division? Parce que c'est religieux. Si j'ai une attitude d'enfant en face de Dieu, ce qui est important, c'est de savoir ce que Dieu me demande de faire. Et la manière dont Dieu me demande de le faire. Donc, ce qui dépend de moi. Ce qui ne dépend pas de moi, mais je m'en remets à Dieu. Ça ne dépend pas de moi. Je m'en remets à Dieu. Et m'en remettant à Dieu, je continue d'être confiant. C'est tout. Ça me met dans la paix. Vous voyez ? Et c'est ça qui, je crois, caractérise alors, je dirais, non plus l'éthique stoïcienne, mais l'éthique religieuse. Et dans Leibniz, c'est net, c'est une éthique religieuse. Ça, c'est très vrai. Alors, l'aspect stoïcien est peut-être moins marqué que dans l'Épicure, mais c'est une éthique religieuse. C'est une éthique qui est vue dans la vision de Dieu. Or, dans une éthique religieuse, si je regarde Dieu comme père, la première division importante pour l'attitude de l'abandon, c'est de savoir ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi. Savoir ce que Dieu a remis entre mes mains, et ce que Dieu n'a pas remis entre mes mains. Oui. Alors évidemment, les stoïciens vont très loin, vous savez bien, Épictète va très loin, en disant, la mort d'un ami, ça ne dépend pas de moi, donc je dois être indifférent. Ça ne dépend pas de moi. La mort des parents, ça ne dépend pas de moi. Puisque ça ne dépend pas de moi, je dois donc être complètement indifférent. Alors là, ça va un peu loin, n'est-ce pas ? Ça va un peu loin, parce qu'au fond, c'est peut-être pas entièrement religieux, ça. Mais c'est contaminé par une attitude où la domination de soi à l'égard de ses passions est la chose première. La première attitude saisine, donc, c'est de se dominer d'une façon telle que les passions n'interviennent plus, puisque les passions sont mauvaises. Dans une attitude, dans une éthique religieuse, on ne dira jamais que les passions sont mauvaises. Donc, on corrigera l'éthique stoïcienne sur ce point de vue-là. Pleurer sur la mort d'un ami n'est pas contre l'abandon à l'égard de Dieu. Pleurer à l'égard de la mort des parents n'est pas contre la confiance totale qu'on a vis-à-vis de Dieu. C'est tout simplement parce que ça touche notre cœur qui était lié affectivement avec telle ou telle personne. Et c'est normal. Vous voyez ? Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas l'éthique religieuse. Alors, d'où ça viendrait ? Ça viendrait du primat de la volonté, je crois. Et ça viendrait du fait que dans l'éthique des stoïciens, il y a un certain dualisme qui demeure. Ce n'est pas totalement religieux. Il faudrait corriger l'éthique stoïcienne dans la lumière, non pas de l'éthique aristotélicienne. Parce que si on corrige l'éthique des stoïciens dans la perspective de l'éthique d'Aristote, ça ne va pas. Parce que l'éthique stoïcienne est une éthique religieuse, qui est tout de suite en référence avec la Providence, immédiatement. Et ça, c'est très net. C'est le point de vue de la Providence, le point de vue de l'immanence de Dieu, présent au plus intime du cœur de l'homme, qui commande toute cette éthique. Alors, il faut corriger ce qu'il y a de trop stoïcien, donc d'exagérer dans l'éthique d'Épicure, d'Épictète, pour comprendre que les passions ne sont pas mauvaises. Les passions en soi ne sont pas mauvaises. Les passions deviennent mauvaises quand elles m'empêchent d'être dans cette attitude de confiance et de dépendance à l'égard de la volonté de Dieu, la volonté du Père. Mais être abandonné et remis entre les mains de Dieu, entre les mains du Père, cette confiance représentera comme l'absolu de l'éthique religieuse. Je crois que c'est juste. Ça, c'est la conséquence même de l'adoration. On est abandonné dans la mesure où on adore. Et dès qu'on n'adore plus, on n'est plus abandonné. Donc, c'est bien directement dans la ligne de l'éthique religieuse et de l'exigence de l'adoration. Donc, essayons d'assumer là, vous voyez, tout ce qu'il y a d'intéressant dans l'éthique stoïcienne pour la situer dans cette perspective de l'éthique religieuse. Parce que je crois qu'il y a là quelque chose qui est important pour nous. Pas voir uniquement l'éthique stoïcienne d'une façon négative, mais voir qu'il y a là quelque chose de grand dans le point de vue de cette confiance et de cet abandon vis-à-vis de celui qui nous gouverne, de celui qui est pour nous un Père, et entre les mains de qui nous nous trouvons, à qui on remet tout, on abandonne tout, avec qui on prend toutes les décisions. Pouvons-nous dire encore autre chose ? Avant de regarder la question du péché. Est-ce que vous voyez d'autres vertus ? J'ai dit d'y réfléchir. Est-ce que vous voyez d'autres vertus qui apparaissent le matin dans une éthique religieuse ? Est-ce qu'il y aurait d'autres attitudes ? Je ne crois pas, moi, personnellement. Au niveau personnel, pas au niveau communautaire. Au niveau communautaire, il y aurait la liturgie. Et la liturgie relève du point de vue, on l'a vu, du point de vue de la vertu de religion, mais on n'en traite pas ici, parce que ça, c'est du point de vue communautaire. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres vertus typiquement religieuses. Si vous en voyez, vous me le direz, parce que c'est intéressant d'essayer de bien situer cela. Moi, je mets l'obéissance et dans l'obéissance, la confiance. Une obéissance confiante. Une remise entre les mains de Dieu. Ce qui fait apparaître une nouvelle vertu, la vertu d'obéissance. Parce que pour Aristote, la vertu d'obéissance est très faible, très fragile. Ce n'est pas une vertu au sens absolu. Puisque c'est la vertu, c'est une attitude, c'est une disposition pour ceux qui sont imparfaits. Or, la vertu, c'est justement pour ceux qui sont parfaits, qui sont capables de s'orienter vers la finalité. Donc, l'obéissance n'apparaît qu'à ce moment-là. Oui.
Est-ce que c'est pour répondre à cette distinction des stoïciens qu'il y a eu la définition que donne saint Thomas des racines du concupiscible ?
Ah non, sûrement pas. Les racines du concupiscible pour saint Thomas, les stoïciens le font.
Est-ce que c'est devant quelque chose qui est...
Oui. C'est sûr que ça joue, mais ce n'est pas à cause de ça. La distinction des racines du concupiscible est très très ancienne. De Platon, oui, bien avant les stoïciens. Mais évidemment, chez les stoïciens, le point de vue de la volonté de domination va tout de suite vers ce point de vue-là. Qu'est-ce que vous êtes capable de dominer? Qu'est-ce que vous êtes incapable de dominer? Alors, cette distinction, ce qui est entre nous, ce qui dépend de vous et ce qui dépend de nous, peut être commandée par une attitude religieuse. Fondamentalement, elle est commandée par une attitude religieuse. Une attitude d'abord. Mais les stoïciens la corsent avec la vie de domination. Et c'est là où je crois que c'est plus juste.
Oui. Est-ce qu'on n'aurait pas une autre vertu qui serait la grandeur d'âme, qui serait le pendant de la contemplation sur la vie pratique?
Oui, c'est sûr. Et oui, c'est la contemplation. Alors, mais je mettrai peut-être après en voyant la contemplation. Parce qu'on verra après. On va l'adoration, la contemplation. Et la grandeur d'âme. Parce que la grandeur d'âme, c'est la conséquence immédiate par rapport à la contemplation. Et donc ça ne peut naître qu'à partir de la contemplation. On peut avoir la grande possibilité de contemplation. On reste petit.
Vous avez évoqué aussi l'humilité.
Ah, l'humilité. Ça, je suis d'accord avec vous. L'humilité est une vertu religieuse. Sûrement. C'est une vertu religieuse de l'humilité. Et vous allez voir pourquoi, ça c'est important. La source première de l'humilité, c'est l'adoration. Ça c'est sûr. L'adoration nous met dans la vérité et fait que Dieu passe devant et la volonté de Dieu passe avant notre volonté. C'est ça l'humilité. Parce que l'humilité, pensez de manière folle, vous savez, c'est très bien dit. C'est venir après le péché, l'orgueil. Mais c'est bien de mettre tout de suite. C'est bien de mettre tout de suite la chose. Parce qu'en réalité, c'est, je crois. Hein, je crois que c'est les paliers différents. C'est comme ça que, génétiquement, c'est comme ça qu'on doit le voir. Mais c'est bien de voir tout de suite. Donc, l'adoration nous met dans une attitude d'humilité à l'égard de Dieu. C'est-à-dire dans une attitude de celui qui accepte que la volonté de Dieu passe devant notre volonté. C'est ça le propre de l'adoration. Quand vous avez beaucoup de peine d'accepter que la volonté d'un supérieur passe avant votre volonté, la meilleure chose pour que ça passe devant, c'est d'aller tout de suite adorer. Et ayant adoré pendant 5 minutes ou 10 minutes, vous serez capable d'accepter la volonté d'un autre, mais pas avant. La seule manière d'accepter, vous voyez, et ça touche le point de vue de l'obéissance, forcément. C'est la condition sine qua non pour l'obéissance et l'humilité. Qu'est-ce qui nous oppose le plus à l'obéissance? C'est l'orgueil. L'orgueil, ça arrête tout. C'est dans ce sens-là que c'est vraiment l'orgueil qui empêche le point de vue d'obéir et de nous mettre dans une attitude d'abandon. Alors, l'humilité consiste donc radicalement et fondamentalement, l'humilité est religieuse. Ça, je crois qu'on peut le dire. Parce qu'elle pousse en premier lieu vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de la volonté de Dieu. Et donc, pour qu'il puisse y avoir abandon total, il faut l'humilité. Pour qu'il puisse y avoir abandon total, il faut l'adoration. Et donc, l'humilité. S'il n'y a pas d'abandon, s'il n'y a pas d'humilité, il ne peut pas y avoir d'abandon. C'est impossible. Comme s'il n'y a pas d'adoration, il ne peut pas y avoir d'abandon. C'est pour ça que là, on est dans la ligne vraiment de l'éthique religieuse, ce qui apparaît à partir de l'éthique religieuse. Alors, l'humilité après Dieu, c'est le prochain. Et l'humilité à partir du prochain ne peut se réaliser, je crois, que dans la lumière de la création. C'est dans la lumière de la création que je peux vraiment laisser passer devant moi le prochain. C'est pour ça que dans l'éthique d'Aristote, vous ne trouvez pas l'humilité. Cherchez bien. Oui.
Est-ce que l'humilité est par rapport uniquement avec le prochain ?
Non, elle est d'abord par rapport à Dieu.
C'est l'adoration ?
C'est pas l'adoration. C'est une conséquence de l'adoration qui permet l'abandon, qui me permet de me soumettre à la volonté de Dieu. L'humilité en face de Dieu, c'est disparaître en face de Dieu. C'est considérer que j'ai rien en face de Dieu. Et encore la volonté d'aller du tout. C'est une conséquence de l'adoration. L'adoration va produire en moi une vertu d'humilité. Et alors, cette humilité va aussi jouer par rapport au prochain. Alors que vous puissiez dire moralement, elle est à l'égard du prochain, si vous comprenez que l'humilité est d'abord religieuse, et moi je crois que c'est très important de comprendre ça, qu'elle est d'abord religieuse, c'est-à-dire qu'elle est d'abord par rapport à Dieu, et qu'elle se prolonge vis-à-vis du prochain. Oui. Et alors, se prolongeant vis-à-vis du prochain, ça consiste justement à voir que dans chacun, chaque homme, chaque âme spirituelle créée directement par Dieu, il y aura toujours des qualités que moi je n'ai pas. Et c'est en ce sens-là que je pourrais me soumettre au prochain, je pourrais laisser passer devant le prochain, je pourrais accepter le prochain passant. Parce que je découvre en lui, dans la lumière de la création, quelque chose que moi je n'ai pas. Pour être vrai. Parce que, vous savez, il y a une attitude moralisante de l'humilité qui est insipide. L'attitude moralisante de l'humilité, c'est de toujours disparaître en face de l'autre. Allez, c'est le passé de l'autre. Alors, toujours, c'est une espèce de. Il peut y avoir cette attitude psychologique. Qui est simplement une espèce de psychose, de petitesse, d'infériorité, chapeau-type. Oh, c'est pas la peine, chapeau-type. Alors, les gens qui vous disent tout le temps ça, à la fin, on a envie de leur dire, écoutez, non, on n'est pas des pauvres-types. On doit être humble, pas des pauvres-types. C'est-à-dire reconnaître qu'il y a en nous quelque chose qui est digne de Dieu et qui a en nous l'image de Dieu. Et fondamentalement, c'est ça qu'on arrivera au point de vue de l'éthique religieuse. Voir qu'on est créé à l'image de Dieu. Et donc c'est l'éthique de l'image de Dieu qui commence déjà avec l'éthique religieuse. Il me semble. On va essayer de voir après. Fondement de l'éthique religieuse. On est créé à l'image de Dieu. Alors vous voyez que quand il s'agit de l'humilité à l'égard des autres, c'est reconnaître qu'il y a dans l'autre et dans n'importe qui. Je ne l'ai pas toujours découvert. Il y a dans n'importe qui quelque chose que moi je n'ai pas. Et à la place de faire un complexe d'infériorité, qui est la grimace de l'humilité, le complexe d'infériorité, on est heureux de reconnaître chez l'autre. On est heureux de reconnaître chez l'autre quelque chose que nous n'avons pas, pour pouvoir le laisser passer devant, en toute vérité. Pas du tout en se mettant à plat ventre, mais en toute humilité, parce qu'il y a en lui quelque chose que je n'ai pas. Ça, c'est la vertu d'humilité. La vertu d'humilité consiste à voir chez le prochain quelque chose que moi je n'ai pas. Et en voyant chez le prochain quelque chose que je n'ai pas, je découvre sa dignité propre dans la lumière de Dieu.
Il y a quelque chose de la grandeur d'âme.
Oui, mais ce n'est pas la grandeur d'âme. grandeur d'âme se tienne, c'est bien évident. Mais la grandeur d'âme, c'est actif. L'humilité, c'est pas actif. C'est une attitude volontaire qui consiste à laisser passer l'autre devant.
Oui. Il y aurait un parallèle avec l'obéissance. Oui, il existe une humilité, même sans niveau religieux, mais elle est imparfaite.
Oui, elle est imparfaite. Elle est dans leur discussion, exactement comme l'obéissance. Elle ne devient vertu, et c'est ça qui m'intéresse, elle ne devient vertu qu'avec l'attitude religieuse. Moi, je crois que c'est très important, ces choses-là, parce qu'on a moralisé l'humilité. Alors que si on avait compris que l'humilité est religieuse, on ne la moralise pas à ce moment-là, parce qu'on donne un motif propre. Tandis que si on la moralise, on dira, mais vous devez toujours vous déplacer dans l'autre. Mais non, il n'y a pas de raison. Je dois laisser l'autre passer parce que je découvre qu'en lui il y a quelque chose que moi je n'ai pas par rapport à moi-même. C'est tout à fait différent. Une attitude de vérité, une attitude de dignité dans l'humilité qui est la véritable humilité, alors que la moralisation de l'humilité fait qu'on perd ce point de vue de l'humilité parce qu'on n'a pas assez vu que la vertu d'humilité ne pouvait naître que dans une attitude d'éthique religieuse. Une éthique laïque ne peut pas mettre l'obéissance et l'humilité. Et c'est ce qui se passe. Il y a de l'anarchie absolue, des ordres complets qui est dans le point de vue de l'enseignement actuellement. Devant une éthique purement laïque, on ne peut pas. Je crois que c'est absolument impossible. On ne peut pas. L'obéissance et l'humilité ne peuvent pas passer. C'est vraiment une attitude religieuse. Si on ne parle pas de Dieu, si on ne reconnaît pas de Dieu, et quand je dis religieux, je veux dire humain, hein, toujours dans le sens où on dit, c'est pas la révélation, c'est l'attitude humaine, c'est l'homme qui prend toute sa valeur et toute sa dimension humaine. Donc, je crois qu'il faut mettre en effet ce point de vue de l'humilité. Je mettrai, oui. Je crois que la chasteté peut exister au point de vue purement éthique, morale, humaine. Oui, je crois. La consécration du village est religieuse. Oui. La consécration du village est religieuse, tandis que la chasteté, je n'oserais pas dire que la chasteté est une vertu religieuse. Je ne crois pas. Ça sera intéressant à voir. Hein. Ça sera intéressant. On y reviendra là-dessus. Rappelez-le-moi. Je voudrais continuer, on se posera la question, parce que c'est important. C'est important pour essayer de situer où se situent ces vertus. On ne sait jamais. On les voit en théologie. On les voit donc tout de suite, c'est commandé par un point de vue plus élevé. Mais il est bon de les voir au point de vue humain, de les voir dans leur perspective proprement humaine ou dans leur enracinement. Je crois qu'il faut voir tout de suite après la question du péché. Le péché a un sens dans une éthique religieuse. Je crois qu'avant, il faut parler de faute, au sens propre. Dans une éthique purement humaine, il faut parler plutôt de faute que de péché. De faute, de manque, d'ignorance, la question de Platon qui viendrait là, quand Platon dit que la faute provient toujours de l'ignorance, ça c'est typiquement, j'allais dire, humain. On s'excuse. C'est la meilleure des excuses, hein, de dire que toutes les fautes proviennent de l'ignorance. On le fait automatiquement. Ah, je ne savais pas. Si j'avais su, je savais très bien. Mais on met ça devant pour excuser. Ce qui montre très bien que le point de vue de l'ignorance fait que, par ce fait même, on essaie d'enlever la culpabilité de la faute. Alors, faute au niveau proprement éthique personnel, et péché au niveau éthique religieuse. Pourquoi péché? Parce que le péché regarde alors la désobéissance à l'égard de Dieu. C'est ça en premier lieu le péché. Le péché est premièrement une désobéissance à l'égard de Dieu. Une désobéissance à l'égard de l'ordre voulu par Dieu. Un péché contre le point de vue de la justice et le péché de désobéissance. Tout péché, comme dit saint Augustin, est une désobéissance. Alors ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, dans une attitude religieuse, on peut dire que l'attitude religieuse demande cette attitude d'abandon. Bien, le péché, c'est juste l'inverse. C'est la rupture de l'abandon. C'est la désobéissance. Alors, j'aimerais presque mieux dire que tout péché implique cette rupture de la confiance, cette rupture de l'ordre de l'amour. Tout péché est un manque d'amour. Un manque d'amour où il peut y avoir un aspect d'ignorance, mais le péché est avant tout une rupture dans l'ordre de l'amour. Et cette rupture dans l'ordre d'amour provient d'un manque de confiance. On n'a plus cette attitude de remise totale de tout nous-mêmes entre les mains du Père. Et parce qu'on n'a pas cette attitude de remise totale entre les mains du Père, on fait passer sa volonté avant la volonté du Père, avant la volonté de Dieu. Et on fait une rupture dans l'ordre de la providence et dans l'ordre de la justice. C'est pour ça que tout péché va impliquer une injustice au sens très général. Injustice à l'égard de l'autre, injustice à l'égard de nous-mêmes, injustice à l'égard de Dieu. Tout péché va impliquer une injustice, et dans l'injustice va impliquer un désordre. Donc l'ordre établi par Dieu est brisé. Il est brisé par ce désordre du péché. Le péché relève donc de notre volonté, propre, d'une volonté, comme toute volonté, elle demande d'être éclairée par l'intelligence, mais d'une volonté qui est éclairée par l'imaginaire, une intelligence qui est complètement obnubilé par l'imaginaire. Si mon intelligence restait absolument lucide, je pourrais pécher si j'étais dans la malice. Le péché de malice consiste à savoir très bien que c'est mauvais, on le fait quand même. Ordinairement, quand on pêche, chez le juste, quand il pêche, le point de vue de l'intelligence est obnubilé par l'imaginaire. C'est-à-dire qu'à la place de regarder le véritable bien qu'on doit regarder, on regarde le bien qui nous attire. Et on ne voit plus que cela. Et on pêche en fonction de cela. Dans ce sens-là, que l'imaginaire et la passion vont faire un poids très très fort pour faire qu'on ne voit plus le véritable bien. C'est ce qui se passe ordinairement chez le juste, hein, chez le juste, c'est-à-dire chez l'homme qui tend normalement vers le bien, parce que c'est ça le juste, c'est celui qui essaie d'être conforme à la loi de Dieu et qui essaie de chercher le bonheur. Tandis que chez l'homme vicieux, chez l'homme qui est perverti, il sait très bien, il y a un certain sadisme du mal, hein, il sait très bien que c'est pas bien. Il le fait quand même pour nuire au prochain, ou pour se nuire à lui-même, ou pour, en face de Dieu, montrer qu'il est égal à Dieu. Il est bien égal à la loi de Dieu. Alors là, il y a un certain, vous voyez, il y a une certaine joie sadique de briser avec un ordre donné. Une espèce d'anarchie. Parce qu'il y a bien sur cette joie de est brisé par rapport à l'ordre donné. Alors, vous voyez, donc, mais le péché est toujours dans la volonté. C'est toujours volontairement qu'on pêche, qu'on s'oppose. Alors, le péché va être en premier lieu un péché d'orgueil. Je crois qu'au plan philosophique, nous pouvons dire, au plan philosophique, éthique, religieux, que le péché par excellence, c'est le péché d'orgueil. Que c'est vraiment le péché d'orgueil qui est le péché par excellence. Le péché le plus lucide et le plus volontaire. C'est le péché d'orgueil. On va essayer de comprendre un tout petit peu ce que représente le péché d'orgueil. Parce que c'est lui qui est source, alors, de toutes les conséquences maléfique du péché. Alors, est-ce que je pourrais dire ça déjà, vous voyez, au niveau de la faute, par rapport au prochain ? C'est ce qu'il dit. Que devient l'orgueil dans un monde purement humain, laïque ? On va regarder d'abord l'orgueil. Si l'orgueil est uniquement une espèce d'exaltation d'intelligence, une exaltation d'intelligence au-delà de tout aspect volontaire. Donc, au-delà de tout amour. Parce qu'en définitive, je crois que c'est ça l'orgueil. C'est de vouloir faire passer devant notre jugement propre. Notre jugement propre, notre jugement intellectuel, ce que nous voulons, notre jugement propre par rapport à notre volonté, par rapport à ce que nous désirons. Et c'est de faire passer devant ce jugement propre au-delà de tous les autres volontés, volonté des hommes et volonté de Dieu. Alors, est-ce que l'orgueil comme tel, pour atteindre vraiment l'absolu de l'orgueil, n'implique-t-il pas que notre volonté passe devant la volonté de Dieu? Et quand c'est uniquement la volonté des hommes, l'orgueil n'atteint pas le paroxysme. Nous aurions quelque chose d'analogue, vous voyez, ça pourra revenir là-dessus. Vous avez donc obéissance, humilité, faute, qui, du niveau de l'éthique humaine, demeure dans l'ordre de la disposition. Et la faute demeure dans l'ordre de la disposition. Oui. Tandis qu'au niveau éthique religieux, alors l'obéissance va être parfaite et va engendrer une vertu. L'humilité va être parfaite et va engendrer une vertu. Et la faute va engendrer un abîme normal. Et c'est vrai que l'éthique religieuse, et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que l'éthique religieuse fait que le cœur de l'homme, au point de vue proprement responsabilité, va beaucoup plus loin dans le bien et dans le mal. Il me semble. Et alors on va voir ça au maximum avec l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne va pouvoir aller, si vous mettez le troisième niveau, l'éthique chrétienne va pouvoir aller plus loin encore dans la vertu et va aller plus loin dans la faute, dans le péché. Vous avez là le péché. Et c'est le péché d'orgueil. Alors, c'est continuer l'analogie de l'ordre de la disposition de vertu et de l'ordre de la disposition, c'est-à-dire dans l'ordre du moins. Le péché. On regardera ça la fois prochaine.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, fruit de vos entrailles.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.